Marie-Madeleine de Kergorlé-Soubrier, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour madame.
Alors, je rappelle à nos auditeurs que nous avions eu deux émissions précédentes avec vous, c'était le 18 mai et le 15 juin dernier. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage intitulé Tu n'es pas seul, accompagner l'enfant en deuil, et sur demande, vous pouvez intervenir dans des établissements scolaires, des collèges, etc. Alors, nous vous écoutons pour notre thème d'aujourd'hui.
Bonjour à tous les auditeurs. Voilà. Alors, je voudrais dire d'abord, puisque je viens d'entendre cette chanson-là magnifique, Je veux chanter ton amour, Seigneur. C'est une très bonne transition pour moi, parce que cette phrase que je remarque, Tu es là, Seigneur, sur tous mes chemins. Je voudrais dire d'abord aux auditeurs qu'aujourd'hui, je me place d'un point de vue psychologique et affectif, et pas d'un point de vue spirituel. C'est très important et j'en reparlerai tout à l'heure. Voilà, donc ne vous étonnez pas si je ne parle pas spécialement de la foi. Je parle d'accompagner un enfant en deuil. Donc d'abord, je parle au nom de tous les enfants que j'ai rencontrés en classe, parce que j'ai été prof pendant 38 ans de lettres, et qui se sentaient non reconnus, non accompagnés, non compris. Voilà, et ceci dès leur plus jeune âge, puisque je parle des enfants en deuil, c'est-à-dire je vais surtout m'occuper des enfants qui sont en maternelle et primaire, même si je vais parler des ados tout à l'heure dans chaque âge. Donc je m'efface devant tous ces enfants qui m'ont fait des confidences une fois devenus adultes, la plupart d'entre eux, en classe ou dans mon entourage. Voilà, puisque la mort a vraiment besoin d'être remise à sa bonne place, c'est tellement un tabou dans notre société. Voilà, d'autre part, je précise aussi que j'ai vécu cette chose, cette douleur horrible, on peut dire, de la mort de maman quand j'avais 6 ans, qui est morte à la maison au milieu de nous. Nous étions 5 filles. Et c'était la naissance de notre 6e sœur. Donc moi, j'étais la 4e, j'avais 6 ans. Et notre mère est morte en 5 minutes, juste avant que je rentre de l'école à midi. Et d'autre part, je précise aussi que je fais ce service d'accompagnement des enfants en deuil, mais je parle de la vie, je ne parle pas de la mort, puisque je veux les amener vers plus de vie et que cette maman ou ce papa qui est décédé ou cette grande sœur ne les empêche pas de vivre à plein, c'est-à-dire il s'agit de faire revivre cette personne et non pas de parler de sa mort, du moment de sa mort. Cette personne, elle est vivante dans leur cœur, donc il s'agit de la faire vivre. Alors, la première chose, c'est que donc c'est un peu de la prévention ce que je fais. C'est pour ça que je vais souvent dans les écoles maternelles, primaires ou les collèges pour parler à l'équipe pédagogique ou aux parents. C'est deux choses différentes, c'est deux moments différents. Comment accompagner ces enfants que vous avez devant vous que vous ne savez pas aborder, surtout en collège, alors que les enfants se sentent très seuls quand ils sont en classe. Donc c'est de la prévention. Alors l'autre jour, j'avais donc évoqué plusieurs éléments. Comment l'enfant, quelle est la conception de la mort pour un enfant, comment on l'aborde. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire au moment des rites, pendant la période de la mort, les quelques jours, enfin pendant les 6 mois qui suivent. Et troisième partie, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pendant les 15 ou 20 ans qui séparent cet enfant de l'âge adulte, de son âge adulte. Donc ça, je vais le reprendre en trois émissions différentes. Donc aujourd'hui, quelle est la conception? Un enfant, en fait, n'a pas du tout la même conception qu'un adulte. Un adulte, il se souvient de cette personne qui est décédée. Il se souvient de la relation qu'il avait avec elle. Dès qu'il a 15-16 ans, il se souvient très bien qui elle est, pourquoi il est triste, ce qu'elle ne lui apporte plus puisqu'elle n'est pas là, alors qu'un enfant n'a pas de souvenirs précis, importants et structurés, il n'a que des petits flashs et éventuellement rien du tout quand il a 1 an, 2 ans, 3 ans. Bien sûr qu'il a un souvenir intégré en lui, sa mère, c'est sa mère. Voilà, donc l'enfant, il a une conception différente. Il y a trois choses à dire. Pour un enfant, la mort n'est pas naturelle. Il faut absolument qu'il y ait une cause, qu'il ait été tué, en somme. Tout ça parce que l'enfant a une toute-puissance qui fait que tout ce qu'il pense est opérant. Donc, il ne peut pas imaginer que la mort, que ce soit naturel, qu'on meure de maladie, etc. Deuxièmement, la mort est réversible pour un petit jusqu'à 7-8 ans. C'est-à-dire le définitif ne veut rien dire. Il vit dans l'instant, un enfant vit toujours dans l'instant. On a du mal, vous savez qu'à l'école primaire, on apprend hier, aujourd'hui et demain. Donc pour un enfant, le définitif ne veut rien dire. Donc il croit forcément, même si c'est inconscient, qu'elle va revenir ou qu'il va revenir. Ça semble bizarre de dire cela, je suis d'accord avec vous, mais c'est pourtant vrai. Par exemple, une petite fille de 8 ans était en bas de l'escalier très souvent, elle était assise et son papa lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Puis un jour, il lui dit, écoute, je ne comprends pas. Tous les jours, tu es assise en bas de l'escalier le soir, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'attends maman. Mais, enfin, maman, tu l'as vue, je t'ai expliqué. Tu l'as vue sur son lit quand elle était morte, je t'ai expliqué. Mais tu m'as dit que je la reverrai un jour. Ah oui, alors le papa avait dit, tu la reverras un jour, c'est-à-dire au ciel pour lui. Et donc la petite fille, elle croyait qu'elle allait revenir un jour. Et une autre petite fille de 4 ans m'a dit à 20 ans, j'étais époustouflée ce jour-là. Mais quand je disais à maman, maman, mais remarie-toi, quand j'avais 6-7 ans, je pensais qu'elle allait se remarier avec papa, qu'il allait revenir. Donc vous voyez, ça, on ne peut pas inventer ça. Je l'ai entendu de la bouche d'une petite fille qui avait perdu son papa à 4 ans. Donc la mort n'est pas naturelle, elle est réversible et ensuite elle est contagieuse. C'est-à-dire que l'enfant a peur que l'autre parent meure, d'où une protection excessive de ce parent. Il essaye d'être sage, ça c'est un point très très important. Tous les enfants en deuil, ils ont inconsciemment cette attitude de protéger le parent vivant. Donc ils ont peur que l'autre meure, ils ont peur que le grand frère meure, ils ont peur que tout le monde meure les uns après les autres. Et si par hasard, après la mort de son papa ou de sa maman, il y a un grand-père qui meurt, ce qui est plus normal, entre guillemets, alors là, il se dit, bah ouais, tu vois bien que c'est, tu vois bien, maman, que la mort, ça peut se passer tout le temps comme ça. Voilà. Donc, non, pour un enfant, la conception, la mort est réversible, elle n'est pas naturelle et elle est contagieuse. Ensuite, l'enfant qui est en deuil, il vit son deuil émotionnellement et physiquement. Je veux dire par là que il ne peut rien verbaliser, rien exprimer. Je parle même d'un petit de 2, 3, 4 ans. Mais tout est imprégné en lui. Je sais pas comment dire. Colette Nies-Mazur, une poétesse qui a perdu sa maman à 7 ans, dit « on est tatoué ». Et c'est tout à fait vrai. Un enfant petit en deuil, comme je le suis, il se sent tatoué. La mort, elle est sur lui, elle est en lui, elle est intégrée en lui. Comment dire? Elle fait partie de lui, de son corps physique. Et il est comme marqué au fer rouge, un peu comme, vous savez, comme les gens qui revenaient de Dachau et qui avaient une marque indélébile sur leur peau. C'est un peu ça. Ce qui fait que la cicatrice de ce deuil, de cet arrachement affectif, cette cicatrice est durable. Et elle va se réveiller comme toutes les cicatrices. Elle ne peut pas s'enlever complètement. Elle va être atténuée, adoucie, mais elle fera régulièrement mal quand on la touche, comme toute cicatrice du corps physique. Et Monsieur Anus, le docteur Anus, qui était le formateur du DU en fac de médecine que nous faisions, là, tous ceux qui voulaient s'occuper du domaine de la mort, un DU sur le deuil des adultes et des adolescents et des enfants. Docteur Anus disait toujours, c'est un vrai traumatisme, la mort d'un parent pour un petit. Parce que il peut rien exprimer, il n'arrive même pas à sortir, même s'il manifeste quelque chose. Donc ce deuil va se réveiller à propos d'un événement comme un déménagement, la mort de son chien, un autre deuil, une rupture amoureuse, une trahison d'un ami. Même une perte anodine, apparemment. Autrement dit, Monsieur Anus disait toujours, on peut travailler avec un enfant en deuil. Je le faisais moi. Il disait, je le faisais avec les enfants de parents suicidés. Mais personne ne peut faire à sa place l'enfant ce travail qu'il ne pourra faire qu'à l'âge adulte et qu'il ne peut pas faire petit. Il faudra qu'il revienne là-dessus. Tout à l'heure, je vous disais que la mort, que définitif ne veut rien dire pour un enfant parce que l'enfant, il vit dans l'instant. Autrement dit, la tristesse de l'enfant, elle est fugitive, elle n'est pas comme celle de l'adulte au moment du deuil. Vous remarquerez qu'un enfant, il ne pleure pas tout le temps, et quelquefois il ne pleure pas du tout. Parce que si les adultes qui sont autour de lui sont non pas paisibles, mais sont tristes, pleurent beaucoup, mais ne hurlent pas, ne crient pas leur douleur, ne sont pas, enfin je sais pas comment vous dire, si les adultes sont tristes, mais lui, il peut ne pas pleurer, parce que il est dans l'instant, il croit inconsciemment que c'est momentané, il sait pas bien ce que ça veut dire la mort, il n'a jamais vu de mort de sa vie, c'est la première fois qu'il voit un mort, s'il est petit, puisque c'est utile qu'il le voie. Donc, il n'a pas de souvenir. Vous savez qu'un adulte, quand il perd un être cher, son conjoint, tous les jours, il se réveille pendant des mois et il pense à lui tout de suite. Et la première fois, m'a dit une amie, que je me suis réveillée en ne pensant pas à mon mari ou à mon fils décédé. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, j'étais presque coupable de l'avoir, non pas oublié, mais momentanément, pas pensé à lui. L'enfant, c'est pas du tout ça. Sa tristesse est très fugitive. Ça veut dire qu'il est à l'école. Dans la cour de l'école, il voit une maîtresse qui a une jupe, par exemple, comme sa maman, puis il va dire, oh là-bas! Donc, il va penser à sa maman. Et si vous le chopez à ce moment-là, vous lui dites, à quoi tu penses là? Il va vous le dire, mais après, il repart jouer. Ça n'est pas du tout comme un adulte. Voilà. Donc, moi, je trouve que l'enfant en deuil, il est à partir de ce moment du deuil un handicapé affectif. C'est-à-dire que de même qu'un enfant peut avoir un bras en moins, oui, un pied en moins, ou être déficient au niveau des oreilles ou des yeux, eh bien, de la même façon, un enfant, c'est comme si il était amputé du cœur. Comme s'il avait un bras arraché, c'est-à-dire un morceau du cœur qui était arraché. Et qui voit ça? Personne. Qu'est-ce qui peut vous dire qu'un enfant, c'est un handicapé affectif? Personne ne va vous dire ça, sauf celui qui l'a vécu. Donc cet enfant, il est hypersensible, il est incompris à l'école. Quand il devient adolescent et que la mort date, que la mort de sa maman ou de son papa date d'il y a 7, 8 ans, personne ne pense à ça, à lui. Donc, d'où la nécessité pour cet enfant d'être aidé par X personnes autour de lui. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que sa famille proche. Le parent qui vit, il a sa douleur à lui, il a son deuil, qui est son problème à lui. Et si vous voulez, il y a bien d'autres gens, le parrain, la marraine, les grands-parents, les oncles, les tantes, l'instituteur, les profs, le médecin, l'animateur de sport, les voisins, il y a énormément de gens qui peuvent être une aide pour lui. Parce que quand on dit, mais cet enfant, on va pas lui parler de sa maman, de son papa, ça va lui faire de la peine. C'est le contraire qu'il pense, lui. C'est-à-dire, plus vous vous empêchez de parler, plus vous omettez de parler de cette personne à qui il pense dans son cœur, peut-être tous les jours, pas vous, mais lui, tous les jours, plus vous omettez, plus le silence va s'incruster, va s'installer, un silence normal, excusez-moi, ça n'est pas un mystère, hein, c'est un silence. C'est-à-dire qu'au bout de quelques 6 mois, 1 an, qui va reparler régulièrement de cette dame ou de ce monsieur? Personne. Parce qu'on croit qu'on va l'ennuyer et qu'il vaut mieux ne pas en parler pour pas lui faire de la peine. Et ben c'est l'inverse qu'il faut faire. Tous les gens que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré 80 ou 90 adultes ayant été enfants en deuil pour faire mon livre, m'ont dit, mais les gens, ils ne voulaient pas me parler de maman et moi, j'osais pas. Moi, j'osais pas parce que j'étais petite, j'avais 10 ans. J'avais là sur le bout de la langue, mais j'avais mal en même temps. Je me disais, je peux pas en parler puisque lui, il m'en parle pas. Vous voyez, c'est très compliqué. Or, la famille pense que cet enfant qui est passé par un tunnel douloureux, c'est-à-dire la mort de quelqu'un, et je précise que quand une mort n'est pas préparée, qu'il n'y a pas eu de maladie qui pouvait faire penser à l'enfant qu'elle était malade, donc il sentait bien qu'elle baissait sa maman, son papa. Je pense que ce tunnel par lequel il est passé, les gens vont vous dire, mais c'est horrible, regarde ces enfants qui ont perdu leur maman ou leur papa, regarde ça comme c'est triste le jour de l'enterrement. Mais ce tunnel en question, pour lui, ne pensez-vous pas qu'il est incontournable? sa vie à lui passe par ce moment-là. Et lui, il n'a qu'un papa, qu'une maman, qu'un grand frère, une grande sœur. S'il perd cette personne, ben, sa vie est bouleversée. C'est pas seulement pour le papa ou la maman qu'elle est bouleversée, c'est pour chacun des enfants, chacun à leur niveau. Alors évidemment, apparemment, les petits sont beaucoup moins bouleversés que l'ado de 15 ans qui perd sa mère, parce que lui, il va manifester sa colère, son agressivité, il va être encore plus insupportable que d'habitude, notamment à l'école. En classe. Mais en fait, ce tunnel est incontournable. Sa vie, elle est passée par cette épreuve qu'il a construite. Donc chacun construit sa propre vie. On n'a pas le même ressenti dans une famille, selon les membres de la fratrie. Mais vous voyez bien que ce tunnel, je ne peux pas le gommer. Comment voulez-vous que j'oublie cette maman ou ce papa? Enfin, je veux dire, c'est impossible. Donc je crois que les gens ne se mettent pas assez à la place de cet enfant qui passe par ce tunnel qui dure quelquefois longtemps. Tant qu'il n'a pas remis le nez dans ce tunnel, hein, je vais vous dire quelque chose. Tout ça, c'est pour reparler de la vie, c'est pour aller vers plus de vie. C'est en osant regarder ses racines, ses zones de douleur, ce tunnel par lequel on est passé, même si tout ça est lié à un deuil, c'est en osant donc regarder ses racines que l'on vit mieux, avec un meilleur régime de vie, sans se voiler la face. De même que ma voiture roule mieux et plus vite sans s'encrasser, si je la vérifie, si je l'entretiens et si j'ose mettre le nez dans le moteur. Voilà, et ben de la même façon, s'il faudra que je remette le nez dans ma vie, si je suis petit en deuil, je ne pourrai sans doute pas faire l'économie de ce retour en arrière un jour. Je vous donne un exemple. C'est plutôt à l'âge adulte qu'on fait ce retour en arrière pour être capable de prendre du recul. À l'âge adulte, avant de prendre des décisions de vie, d'état de vie, avant de se marier, avant de faire des choix de vie. Un adolescent de 14 ans est en classe et il me dit, mais comment voulez-vous, madame, que je parle avec papa pour lui demander de me parler de maman? Lui, maman est morte il y a 8 ans. Lui, il est remarié déjà, papa. Et puis, moi, je dis, ce monsieur, il a fait son deuil comme il a voulu, comme il a pu. Mais comme il est remarié, lui, il regarde devant ce monsieur, il est adulte. Il a toujours dû regarder devant pour élever ses enfants tout seul au départ. Parce que ça devait être difficile pour lui. Mais l'enfant qui avait 6 ans et qui a 14 ans aujourd'hui, il avait 6 ans. Il avait donc il a pas beaucoup de souvenirs, ni de sa maman, ni des événements qui se sont passés à cette date-là. Et tout d'un coup, il se réveille à l'adolescence et il se dit, mais moi, je suis tout seul dans ma classe à être orphelin. Ou alors, on est peut-être deux, mais un. C'est pas du tout pareil que ceux dont les parents sont divorcés. Personne ne me parle de ma mère. Mon père est remarié, donc tout le monde croit que c'est pareil, alors que je n'ai qu'une mère. Et que je m'entends, même si je m'entends bien avec cette dame, ça n'est pas ma mère. Et du coup, eh ben, il n'ose pas parler à son papa. Et son père, il regarde devant, alors que le gamin, 14 ans, il regarde derrière. Et tout remonte. Vous voyez, c'est pour vous montrer qu'à l'adolescence, il y a énormément de choses qui s'en mêlent dans le cœur de l'adolescent. Moi, j'ai bien vu à l'école, puisque j'avais des ados pendant 38 ans. Et que ceux qui avaient ce souci d'enfance, que j'avais vu sur leur fiche de présentation, parce que c'était marqué, eh bien, dans les copies de français, il me ressortait quelquefois des choses qui n'avaient rien à voir avec l'événement, avec le sujet dont on parlait, mais qui faisaient référence à cette mort. Je me disais, mais pourquoi m'a-t-il mis ça? Je me permettais de lui en parler, puisque je suis sa prof, et qu'il m'a mis ça dans la copie, que je ne montre à personne, hein. Une copie de français, ça n'est lu que par moi. Personne n'a le droit de la voir. C'est tout à fait personnel, une copie, surtout d'adolescent. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a un décalage à l'adolescence, et donc c'est pas tellement le parent vivant qui est bien placé pour aider, c'est pas toujours lui, pour différentes raisons. Voilà, donc là, on vient de parler du moment de la mort. Une autre fois, j'évoquerai tout ce qu'on doit faire au moment des rites, c'est-à-dire dire la vérité, voir le défunt si possible, participer au rite, tout ça, ce sera la prochaine fois. Maintenant, je voudrais vous parlez des particularités de l'enfant en deuil, selon les âges. Donc, on a dit que le petit, il vivait très physiquement, émotionnellement, il est comme tatoué. Donc, le tout petit, bon. Mais ça n'empêche que le tout petit, il faut lui parler. Et disons que le petit, bon, il peut très bien. Moi, je vois un enfant de 4 mois que j'ai côtoyé. Eh bien, il était tout d'un coup, sa mère est morte subitement en une journée. Eh bien, il était apathique. Il avait changé de caractère à 4 mois. C'est ahurissant parce que je l'ai vu de mes yeux, sinon je ne le croirais pas. Ensuite, l'enfant, donc, jusqu'à 6 mois, c'est ça. C'est très difficile, mais pourtant il faut lui dire la vérité. Je vous dirai ça la prochaine fois. L'enfant de 6 mois à 2 ans, il va, comme il marche, 1 an, 2 ans, il marche éventuellement, il va chercher cette personne. Il peut très bien avoir des phases de colère ou alors de retrait, mais on voit qu'il n'est pas bien, qu'il cherche quelque chose. Souvent, il n'est pas bien déjà. L'enfant de 2 ans à 5 ans, même si on lui a expliqué, il n'a pas compris hein, le caractère permanent. Donc, en fait, il est souvent dans l'attente du retour de cette personne. À cause de, et puis, il pense que ce n'est pas naturel, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il y a un climat d'anxiété qu'il vit. Et si par hasard, il est exclu des rites et privé de tous ses repères que sont les rites, pour tout intégrer, même si c'est intégré sans comprendre. Donc, il peut avoir beaucoup d'agressivité parce qu'on le laisse de côté, il n'est pas content. Il a vraiment une sécurité de base qui s'est un peu effondrée. Ensuite, l'enfant de 5 à 8 ans, c'est le moment où le côté définitif et irréversible commence à s'installer. Et l'enfant, voilà, ça dépend des enfants. 6, 7, 8 ans, souvent à 8 ans, il a compris le définitif, mais il ne va pas forcément exprimer ses émotions parce qu'il voit que son parent vit en pleurs, donc il va plutôt cacher ses émotions. Et puis l'enfant à cet âge-là, oui, là aussi, on voit beaucoup d'enfants de 8-10 ans qui prennent en charge et qui s'occupent de leur papa, de leur maman ou de leurs petits frères et sœurs de façon un peu trop maternelle, ce qui fait que eux, ils s'assoient sur leur deuil éventuellement. On dit que c'est pas très bon. On va dire qu'un enfant, que c'était comme un petit. Ben oui, une petite mère, mais c'est pas très positif en fait de favoriser cette attitude. Voilà, l'enfant adolescent, comme je disais tout à l'heure, il manifeste soit de l'agressivité, de l'énervement, il n'est pas content, il râle tout le temps, soit un retrait. Mais si on l'a fait participer à tous les rites et si quelqu'un de la famille le rencontre, quelqu'un qu'il aime bien, ça peut être un oncle, un prof, un voisin, ça peut être un grand frère, ça peut être. Voilà. Donc, cet enfant-là, cet adolescent-là, il a des souvenirs. Donc, même s'il est apparemment désagréable, le deuil est moins. Enfin, je pense, on peut l'accompagner, c'est moins difficile puisqu'il a des souvenirs de sa maman. Donc, il pourra intégrer ce deuil un jour, même s'il doit y revenir aussi, comme son papa qui a des souvenirs, etc. Tandis que ce sont les petits en dessous de 10 ans qui ont moins de souvenirs et qui un jour vous diront, mais je ne sais pas bien, je ne sais pas bien. Même l'enfant qui a côtoyé son papa, je pense à un enfant de 4 ans qui avait côtoyé son papa malade pendant 2 ans, qui était toujours avec lui avant d'aller à l'école. Eh bien, il dit à sa grand-mère, 6 ans après, ben, je ne me souviens pas bien de papa. Voilà, l'enfant ne gagne rien à être protégé, autrement dit, parce qu'on lui enlève le droit qu'il a de participer à tout, parce que dans le fond, quand on met de côté un enfant, de quel droit fait-on cela? De quel droit fait-on cela? On enlève à un enfant le droit qu'il a. Alors maintenant, j'aurais pu vous parler aussi de l'école, mais je pense que je reparlerai un jour de l'enfant, de l'école, parce que ça, c'est énorme, parce que les instituteurs et les professeurs ne sont absolument pas formés, n'ont aucun outil pédagogique et ont même pas trop envie de recevoir, les directeurs ont quelquefois pas envie de recevoir des associations qui parlent de ça, ou moi, quand je vais dans une école. Parce que quelqu'un peut mettre un veto. Un directeur qui a un problème avec la mort pour des raisons personnelles, il met un veto à ma venue. J'ai déjà vu ça. La catéchiste chef avait proposé que je vienne et finalement, il n'a pas pu venir. Je n'ai pas pu venir. Voilà, je crois que je parlerai de ça une autre fois. Voilà, bah, écoutez, j'ai fait un peu le tour de ce qu'un enfant, et la conclusion, c'est qu'il faut absolument approcher un enfant en deuil, lui parler de sa maman vivante, pas de sa maman morte, de son papa, de ce qu'il était, de rendre le personnage vivant pour que lui, il ait un souvenir un jour. Plus il a de souvenirs accumulés de toutes ces personnes, je vous parlerai plus tard aussi en disant que ces souvenirs, il faut qu'ils soient écrits pour que plus tard, il puisse avoir des textes et des dossiers écrits pour faire sa thérapie ou son espèce de travail de deuil et son retour vers son enfant en deuil intérieur. Voilà. Bon, ben, je m'arrête ici. Je vous remercie, Sandra, de m'avoir laissé parler.
Marie-Madeleine de Kergolis-Soubrier, nous avons deux auditrices qui souhaiteraient intervenir. Il y a tout d'abord Sandrine. Sandrine, c'est à vous.
Oui, bonjour, bonjour Radio Maria, bonjour Madame, je vous remercie pour le votre émission, bien sûr, comme Radio Maria qui nous permet aussi d'écouter et d'intervenir sur des sujets qu'on ne peut pas parler autour de nous. Je suis maman de deux enfants qui sont maintenant grands, un de 16 ans et demi et un autre de 24 ans. Au décès de leur père, ils avaient donc 10 et 18 ans. Leur papa s'est suicidé. Et je vous appelle par rapport à Thomas, qui est le deuxième. Donc Thomas, maintenant, donc à 16 ans et demi. Thomas, son surnom, c'est Boule de Vie. C'est son papa qui l'avait surnommé comme ça, puisqu'on ne devait plus avoir d'enfant. Et ce bébé, enfin, voilà, il est arrivé dans nos vies, il a déboulé. Et il nous l'a prouvé bien plus d'une fois. Il continue à nous le prouver. Je reste toujours très vigilante et en même temps impuissante parce que je vois que Thomas, qui était extrêmement proche de son père, et il n'y a eu aucun signe avant-coureur pour lui comme pour l'entourage, que son papa allait se pendre le lendemain après avoir ri une fois de plus avec son fils. Thomas grandit très bien. C'est étonnant, je me plains qu'il grandisse bien. Il reste boule de vie. Il est extrêmement bon à l'école. Il a des amis, il est social, il fait du sport, il est chef scout, il vit. Je le fais vivre aussi, je le pousse beaucoup dehors. Thomas ne parle jamais de son papa. J'en parle peut-être trop. Et il a peut-être peur de me faire de la peine. Mais en fait, c'est que je le pousse aussi à en parler, mais enfin, il fait partie de notre quotidien. Et Thomas n'en parle pas, enfin, fait comme si, on va dire, rien n'était. Enfin, il m'embrasse et s'en va, quoi. Avec son grand frère, c'est plus, par contre, dans l'altercation, parce que c'est un adulte, c'est un homme. Ça va pas tarder avec Thomas. Enfin, il est plus grand que son frère, mais ça va pas tarder. Avec Thomas, par contre, je le cherche. C'est plus fort, c'est plus c'est ça, on n'avait pas la même ils n'avaient pas le même âge, on n'a pas vécu les choses de la même façon, on n'avait pas la même histoire aussi de vie avec son papa. Et à 18 ans, on n'a pas la même position aussi par rapport à, il entoure beaucoup son petit frère, on a entouré beaucoup son petit frère, mais Thomas ne voilà ne dit ne et ne dit rien, il ne fait rien, fait tout bien, voilà. Il fait tout bien, il n'en parle jamais. C'est très bizarre. Et je ne sais pas, il veut pas, ici qu'il peut parler à des gens à l'extérieur, il n'a jamais voulu. Tout le monde attend qu'en fait, que ça explose.
Oui.
Et on ne sait pas quoi faire en fait.
Alors, madame, en fait, je vous remercie de votre confiance. En fait, cet enfant, il va bien, comme vous le dites, hein?
Oui.
Puisqu'il est vivant, il est sportif, il est chef scout, tout ça. Donc, il a forcément eu, à 10 ans, à la mort de son papa, un choc. Forcément, il a eu un choc émotionnel, comme tout le monde, comme tous ceux qui l'ont vécu. Simplement, je ne sais, enfin, vous semblez dire qu'il ne veut pas parler de son papa. Alors que vous, vous sollicitez, donc vous, c'est très bien. Vous, vous faites ce qu'il faut faire, c'est-à-dire d'en parler, naturellement, j'imagine, ou avec tristesse.
Ah, les deux. Hein.
Les deux. Donc, vous, il
Moi,
y
par contre,
a.
j'ai décroché. Il sait que moi, je suis en suspens depuis que son papa.
Il y a
Moi,
6 ans,
je.
il y a 6 ans, madame, vous dites, c'est ça?
Ça fait 5 ans et 7 mois.
Voilà. Enfin, comment dire? Lui, il ne peut pas aimer, entre guillemets, que vous en parliez avec tristesse. Ça doit lui fendre le cœur, ça doit. Donc, s'il sait que vous pouvez encore en parler avec tristesse, il n'a pas envie d'évoquer le sujet. C'est normal, ça, puisqu'il vous protège. De toute façon, il vous protège. Les deux enfants, il peut pas, enfin, il ne peut pas faire autrement que vous protéger. Il se protège aussi. Donc, comme vous dites, comme vous voulez dire, on attend que ça explose. C'est très possible que ça explose. Simplement, comment dire, il faut, ça explose d'avant. Il vaut mieux que ça explose à l'âge adulte, pas maintenant. C'est pas le bon, 16 ans, c'est pas le moment. Donc, quand il sera plus grand, vous pourriez peut-être lui dire que même s'il n'entend pas et s'il vous rabrouent, ben, tu vois, ça serait bien que tu fasses un jour un travail là-dessus, puisque c'était tellement douloureux, la mort de papa, dans les circonstances où ça s'est passé. Moi, mais ne pense pas à moi. Toi, pour intégrer cette mort, il est sans doute, enfin, à mon avis, hein, il sera nécessaire, comme vous le dites aussi, de faire un travail sur lui, puisqu'il n'a pas pu à 10 ans. Creuser ses sentiments, il peut pas. Surtout qu'à l'école, les copains, tout ça, personne n'a envie de lui reparler de son papa qui est mort de cette façon. Les gens, ils n'osent pas. C'est encore plus tabou. Donc, je pense effectivement que si c'est probable qu'un jour il fasse ce travail de deuil, de revenir sur son enfant en deuil et de réexaminer, de réussir à revivre affectivement, quelque sorte, ça s'appelle revivre affectivement ce qu'on a vécu comme traumatisme, dont il se souvient un peu, hein, à 10 ans, il ne peut pas avoir
Ah oui.
complètement oublié. Il ne peut pas.
Non.
Donc il a des éléments pour repartir. Mais si vous voulez, l'essentiel, c'est peut-être qu'il fera un travail de deuil là-dessus, mais l'essentiel aussi, c'est de rendre vivant ce papa, quelle que soit sa mort, la façon, c'est de le rendre vivant. Ça veut dire son père, c'est sa racine, comme vous. Donc il lui a transmis beaucoup de choses. Et de toute façon, c'est son papa, qu'il aime toujours, auquel il pense tout le temps. C'est très important, ça aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, de dire à un enfant, nous, on aime ton papa encore, toi, tu y penses tout le temps, et moi
Bien
aussi.
sûr.
Mais pas que vous qui disiez ça, d'autres gens. Parce que si vous voulez, un enfant, il manque d'entendre, un adolescent, il manque d'entendre quelqu'un autre que sa mère lui dire, bah, tu sais, ton papa, je repense souvent à lui, quand il faisait ça, quand il disait ça, tu te rappelles, telle chose, telle activité. C'est naturel de dire ça et les gens n'osent pas lui dire ça parce que son papa est mort, suicidé en plus. Les gens n'osent forcément pas lui dire. Donc, si vous voulez, il faudrait aussi, on peut aussi, enfin, je sais pas si vous pouvez demander à ces gens qui gravitent autour, qui sont adultes, qui étaient adultes à l'époque, de lui parler naturellement de son père vivant, pas de sa mort du tout, de lui vivant, parce que lui, il a. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il sache qui est son papa. Après, le problème de sa mort spéciale, sans doute qu'un jour il devra retravailler là-dessus. Parce que le grand qui avait 18 ans, lui, il était adulte à 18 ans déjà, l'autre fils.
Oui.
Donc lui, je ne sais pas comment il est, mais lui, il était comme un adulte pour faire son deuil, hein, comme vous.
Oui.
Enfin. Donc, il a pas, je ne sais pas s'il l'a fait, mais je veux dire, il pouvait beaucoup mieux intégrer la mort de son père que celui de 10 ans. Beaucoup mieux. Enfin, c'est comme un adulte. Donc, si vous voulez, moi, je vois une amie, là, 6 ans après la mort de son mari, elle s'est dit, finalement, j'ai pas fait le deuil de papa, de mon mari. J'en parle beaucoup trop avec tristesse. Je vais aller faire un travail de deuil. Et maintenant, avec ses 4 enfants qui étaient relativement de 15 ans à 4 ans, eh bien, elle peut maintenant en parler de façon beaucoup plus sans tristesse. Sans
Oui, c'est
pleurer.
vrai. Enfin, c'est pas le cas encore à la maison. Ce matin encore,
Voilà.
il est venu me réveiller. Enfin, il vient me voir le matin avant de partir au lycée. Et je venais de me retourner dans le lit pour aller chercher mon mari comme je faisais tous les matins. Et d'un coup, voilà, on réalise qu'il n'est pas là
Et
encore.
pourquoi il vient vous voir dans votre lit? Pourquoi il vient? Est-ce que c'est pas
Ah,
indiscret?
il vient me dire bonjour.
Ah, veut dire au revoir en partant, vous voulez
Oui,
dire.
enfin, au revoir, bonjour, voilà.
Parce que vous
Voilà.
n'êtes pas levé, d'accord.
Oui, là, selon. Oui, non, moi,
Oui, il part en
non.
classe.
Voilà,
Donc,
il prend le car
voyez,
à 7
quand
heures
vous
moins le
racontez
quart. Il...
ça, madame, moi je sens qu'il vous protège. Je le
Oui, je
sens.
sais.
Et donc, quelque part, je pense que je ne vais pas vous faire de peine en vous disant que vous-même, madame, 6 ans, c'est pas beaucoup, 6 ans. Je sais que ça n'est pas beaucoup pour un adulte en deuil qui a perdu son conjoint. Donc, vous-même, peut-être que vous pourriez être accompagné.
On fait que ça.
Vous-même, vous êtes accompagné en ce moment.
Oui, on s'est séparés depuis le début.
Oui,
La
bon, bah,
semaine dernière.
donc bah, voilà, bah, vous avez votre travail qui continue, mais il faudrait que vous lui disiez souvent que vous occupez de vous, justement, vous vous occupez de vous, mais que lui n'a pas à vous protéger. Enfin, même s'il vous protège un peu, les enfants protègent quelquefois leur père, mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, je comprends, je vous
Il
remercie.
faudrait que vous lui disiez que vous, c'est vous, mais que lui, ça n'a rien à voir, un conjoint et un enfant. Et je vais vous dire une phrase. Voilà. Moi, j'ai dit à mon père, à 40 ans, donc vous voyez, à 40 ans, il en avait 80, puisqu'il avait 40 ans, la mort de maman qui avait 37 ans, je lui dis, papa, écoute, toi, tu as fait ton deuil comme tu as pu, comme tu as voulu. Et lui, il l'avait fait. Je savais qu'il l'avait fait, puisqu'il a pu me raconter la mort de maman en détail, etc. À 40 ans. J'avais 40 ans, hein, pas avant. Donc, mais de moi, est-ce que tu te rends compte que nous, les filles, à notre âge, chacun différent, bah, nous, ça n'a rien à voir, un enfant. Donc, tu t'es beaucoup occupé de nous, mais tu ne t'es pas rendu compte que les petites, en tout cas, n'avaient pas fait leur travail de deuil, qu'il fallait le refaire à l'âge adulte, comme je l'ai fait, moi, à 20 ans. Parce que j'ai oublié de vous dire que moi, j'ai perdu mes deux grandes sœurs après la mort de maman et de ma petite sœur à la naissance. Quand j'avais 18 ans, j'ai perdu ma sœur de 21 ans d'un cancer fulgurant. Et quand j'avais 20 ans, j'ai perdu ma grande sœur d'un anévrisme cérébral, mère de famille de 3 bébés. Donc, c'était le tsunami. Et là, j'ai dû faire un travail obligatoire. J'ai même pas eu le choix. J'étais malade. Bon. Alors que je ne suis pas déprimée de nature. C'est pour dire simplement que bien lui expliquer pour vous que vous et lui, ça n'a rien à voir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire par là?
Oui, merci.
Et que vous êtes accompagné, que lui, il peut être accompagné, il y a été accompagné ou pas?
Il n'a pas voulu,
Il n'a
il a
pas voulu?
essayé, non,
Voilà,
non.
ben, il y a beaucoup d'adolescents qui font ça, hein, qui ne veulent pas, j'en connais énormément. Mais que sans doute, un jour ou l'autre, tu devras revenir sur ce travail de deuil, tu devras revenir vers ton enfant intérieur en deuil, puisque 10 ans, tu étais quand même un enfant. Alors, vous écouterez les émissions suivantes, notamment la
Bien sûr.
troisième en novembre, où je parlerai en détail en novembre de ce qu'il faut faire pour un enfant et ce que vous pourrez encore faire. Mais je ne peux pas tout raconter d'un coup, je peux pas, parce que je voulais approfondir chaque notion, parce que finalement, 6 ans après, vous allez. Ou alors vous m'envoyez un mail, mma.decargorlet, ou bien vous m'envoyez un mail, c'est plus simple, l'enfant en deuil, l'enfantendeuil@gmail.com. Et je vous enverrai un
Et...
papier différent. Avant
D'accord.
l'émission du mois de novembre.
Je vous
L'enfant en
remercie.
deuil, tout accroché, @gmail.com. Vous qui vous appelez Sandrine, donc vous pouvez
Merci.
m'envoyer ça. Et puis moi, je vous répondrai deux, trois papiers différents qui vous parleront à vous. Enfin, je ne peux pas tout expliquer d'un coup. Je peux pas tout dire.
Je vous
Voilà.
remercie. Je vous remercie.
Mais faites-le surtout, hein, parce que j'ai des papiers à vous envoyer qui sont très. Ou alors, je vous rappellerai en privé. D'accord?
Je vous remercie vraiment.
Au revoir, madame.
Merci pour chacun d'entre nous. Merci. Au
Merci,
revoir.
Sandrine.
Et merci. Merci, Radio-Marie. À bientôt.
Merci beaucoup, Marie-Madeleine de Kergorlier-Soubrier. Et on vous retrouve le mois prochain pour continuer sur ce thème de l'accompagnement de l'enfant en deuil.
Au revoir.
Merci, au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Comment accompagner l'enfant en deuil avec Marie-Madeleine de Kergolay-Soubrier, émission que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.